Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Alexandre Dubé, aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Cube Radio.
Et on fait le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Bonjour Francis.
Salut Alex, comment ça va?
Ah, ça va très bien, toi aussi?
Magnifique.
Dis-moi, la Commission canadienne du lait qui fait exploser les prix alors que les coûts baissent, semble-t-il.
Oui, ben c'est une drôle de nouvelle, hein, mais on a appris ce matin en fait que la Société d'État qui est en charge de fixer les prix au Canada, donc qui fait la recommandation, aurait, entre guillemets, succombé aux pressions de l'industrie et aurait décidé d'augmenter les prix du lait contre toute autre indication logique, si tu veux. Généralement, la Commission canadienne du lait, donc la CCL, il se base sur des rapports d'experts qui font une évaluation du coût total de fabrication du lait. Donc, il y a les coûts de main-d'œuvre, les coûts des cheptels, les coûts en capital. Et cette année, on a vu des variations de plus 2 % puis de moins 1 %. Donc, des coûts, c'est ce que ça coûte aux fermiers de fabriquer le lait. Malgré ça, la CCL a choisi de proposer et d'exiger des augmentations de l'ordre de 10 à 15 %, ce qui a participé directement, évidemment, à l'inflation. Comme tu sais, Alex, le lait, c'est un bien relativement inélastique, hein, c'est-à-dire que peu importe le prix, quand il faut du lait, il faut du lait. C'est un bien que les ménages et les auditeurs le consomment un peu indépendamment là, de leur prix, c'est un bien un peu de base. C'est le spécialiste Sylvain Charlevoix qui a expliqué qu'il y avait eu une augmentation assez importante dans la technologie de fabrication du lait ces dernières années. Et ça fait en fait baisser le coût, contrairement à beaucoup d'autres industries où les coûts augmentent. La fabrication du lait par hectolitre coûte de moins en moins cher. Donc, ça laisse planer quand même un certain doute là, sur la transparence puis l'honnêteté de cet organisme fédéral. Et donc, ça va être un dossier à suivre parce que, évidemment, comme je le disais, ça participe directement à l'inflation et donc à creuser le trou là, dans les poches des ménages.
Non, tout à fait. Ça a un impact direct. Des profits en baisse pour les banques canadiennes. Tiens.
Oui, ben c'est sûr que là, dans le contexte actuel, avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de volatilité, tu sais, on a parlé de la Caisse de dépôt et placement ces dernières semaines, qui a eu des très mauvais résultats. Et aussi le fait qu'on anticipe avec la hausse des taux, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont avoir de la difficulté à payer leur hypothèque ou leur prêt. Ça oblige les banques là à faire un certain nombre de décisions. Donc, dans l'ordre, la Banque nationale, qu'on connaît bien au Québec, a vu son profit baisser de 2 % au dernier trimestre. C'est pas majeur. Ça amène son profit trimestriel à 839 millions. Donc, c'est pas non plus le...
Ça devrait être bon pour mettre du beurre de peanut sur leur toast.
Ou du lait, en fait, à 10 ou 15 % plus cher.
C'est ça, du fromage à la crème.
Le nouveau PDG de la Banque nationale, Laurent Ferreira, a dit que dans les circonstances, c'était un excellent résultat. Ouais. Donc, pour la nationale, tout va bien. Okay. Je vais sauter à la CIBC, là, qui a vu, elle, une diminution de 5 % de son bénéfice net à 1,66 milliards. Donc, encore une fois, bien assez de beurre de cacahuète.
Oui, on est correct pour
CIBC.
Les toasts. Oui.
On est correct pour les taux. Ce qui est exceptionnel dans cette diminution-là de 5 %, Alexandre, c'est que il y a une proportion, en fait, la quasi-totalité de la baisse vient de provisions pour créances douteuses, là, ou pour non-performance. C'est-à-dire que la CIBC s'attend à ce qu'il y ait un nombre plus grand d'individus, de ménages, d'entreprises qui ne payent pas, en fait, la dette qu'ils ont contractée, donc que la banque fasse des pertes.
Dans le contexte actuel, c'est pas étonnant, là.
C'est pas étonnant, c'est même un peu inévitable, mais c'est juste, c'est en ce trimestre que la CIBC prend cette provision-là. Est-ce que ça va se réaliser? T'sais, c'est toujours un peu anticipé, mais à suivre. Celle qui va moins bien, mais c'est la plus grande banque canadienne, la Banque Royale du Canada. Elle affiche un résultat net en baisse de 16 %, ce qui est quand même une assez grosse diminution. Ils passent, eux, de 4,3 à 3,6 milliards pour le trimestre. Donc là, tu sais, plus ça va, plus il y a de beurre de cacahuète, mais ça reste que la diminution est quand même importante
oui.
pour la RBC. Le PDG de la RBC a évoqué beaucoup de raisons à ça. L'environnement macroéconomique qui inclut, tu sais, l'inflation, la chaîne d'approvisionnement, les tensions géopolitiques, puis évidemment tout ce qui est le marché du travail là, qui pèse sur la RBC. Donc, ça a fait baisser de plusieurs centaines de millions là, le bénéfice de la RBC au dernier trimestre. C'est sûr que, bon, ça sonne des gros chiffres là, et tout ça, mais ça reste que ça a eu une conséquence sur la valeur boursière de ces titres-là qui ont perdu là, en moyenne 5 % là, dans les derniers jours, là, les différentes banques canadiennes. Pendant la pandémie, les banques, on se rappelle, ont été des valeurs un peu refuge, hein, fait que les valeurs boursières avaient énormément monté. Ça va un petit peu moins bien pour elles ces derniers jours, Alexandre.
Oui, visiblement. Puis en terminant, le président Biden qui dévoile un plan ambitieux de réduction de la dette étudiante.
Oui, ben tu sais, je trouve que c'est un sujet qui pourrait éventuellement faire objet de conversation pendant la prochaine campagne électorale québécoise.
Oui, là,
qui sait? Puisqu'on va certainement en parler dans les prochaines semaines, je me suis dit pourquoi pas regarder au sud de la frontière ce qui se fait. Ça fait plusieurs mois que le président Biden consulte, réfléchit, s'entoure d'experts là, autour de la dette étudiante. Aux États-Unis, c'est pas la même game qu'ici. Hein. Moi, j'ai fini mes études, Alexandre, avec quelques milliers de dollars de dette. Aux États-Unis, il y a 45 millions d'individus, ouais. C'est-à-dire à peu près un sixième de la population, okay. qui détiennent 1,6 trillion de dollars de dette d'études.
Les frais de scolarité sont beaucoup plus chers là-bas qu'ici. Il faut le mentionner. Ceux et celles qui trouvent que ça coûte une fortune étudier ici, là, j'ai des petites nouvelles pour vous. Renseignez-vous, là.
Peut-être 10 fois plus cher. Là,
oui.
Puis encore une fois, ce ne sont pas les grandes universités là, à ce prix-là. Si tu fais la division rapidement dans ta tête, 1,6 trillion par 45 millions, Alexandre.
Oui.
La dette.
Je retiens.
La dette moyenne.
Oui.
Oui. La dette moyenne des gens qui ont des dettes d'études est quand même de 35 000 $. Mais là, on parle d'une moyenne. Fait que pour tous les gens qui sont en fin ou qui ont des 10 000 ou des 5 000, il y a aussi des individus qui ont des 100 000, des 150 000 $ de dettes d'études. Donc, pour en arriver à la proposition du plan Biden, la proposition est la suivante. Pour les gens qui gagnent moins de 125 000 $ par année, ce qui est quand même, tu sais, une certaine richesse, là, il va y avoir un oubli d'une partie de la dette correspondant à 10 000 $. Donc, ça va baisser le solde de leur dette d'un coup.
Le tiers,
pour les ménages, en moyenne, mais tu sais, je vais expliquer un peu, là, mais il va falloir appliquer, il va falloir se qualifier. Donc, tu sais, c'est pas automatique, là. Il y a quand même un petit processus.
Okay.
Pour les ménages à faible revenu, donc, qui se qualifiaient, là, à l'époque, pour un certain type de prêt et bourse, l'oubli va être, lui, de 20 000 $. Donc, c'est quand même un cadeau, là, assez généreux.
Ouais.
On estime que dans l'ensemble, le programme va coûter, et là, c'est ce qui frappe un peu l'imaginaire, entre 300 et 500 milliards de dollars au trésor américain. Donc, ce ne sont pas de petits oublis. C'est à peu près un tiers, effectivement, là, de la dette totale des Américains en matière de dette d'études. Il y a des voix qui se sont élevées, évidemment, très réjouis, hein, pour les gens qui ont de ces dettes, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on réfléchit quand même au fait que, tu sais, dans le fond, les gens qui sont allés à l'université, typiquement dans la société, c'est des gens, tu sais, souvent qui viennent de meilleures familles ou en tout cas qui ont accès peut-être à des meilleurs revenus. Et donc, de leur donner un cadeau comme ça, j'ai lu un article du Wall Street Journal ce matin qui disait que c'est comme c'est les plombiers puis les chauffeurs de FedEx qui financent un peu l'élite éduquée de la société américaine parce que ce sont les impôts de tous là, qui
Il faudra les payer
ça.
Ces montants-là en bout de ligne là.
Faudra les payer, donc ça doit venir de la poche. Puis donc, ce sont, d'une certaine façon, toute la population qui va payer pour un oubli de dette de gens éduqués. Donc, est-ce que c'est juste, injuste? Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'écrits là-dessus ces derniers jours. Mais assurément, en tout cas, un sujet intéressant. Puis comme je disais, même si au Québec, les frais de scolarité sont plus bas, on a quand même certains jeunes là, et moins jeunes qui ont des dettes d'études. Donc, peut-être quelque chose à réfléchir là, du côté québécois, notamment dans les prochaines semaines.
Oui, c'est clair. Francis, un immense merci pour ta précieuse collaboration.
C'était un grand plaisir pour moi aussi, Alexandre. Puis j'espère qu'on aura d'autres saisons estivales ou quelque chose comme ça à vivre ensemble. Ça a été un grand plaisir du début à la fin.
Très bien. Merci à toi. À très bientôt. Merci à vous d'avoir été à l'écoute également. Merci à toute l'équipe de Cube qui fait des petits miracles tous les jours. Je retourne dans mes terres sereines. Au revoir.